Chapitre 48. Jean-Michel Basquiat sort de l'ombre. Tandis qu'elle faisait ses devoirs à même le sol de la brocante de son père, avec Cosmos couché sur son dos, Mona aperçut sa mère sur le seuil de la boutique. L'enfant et l'animal levèrent la tête de manière synchronisée et sentirent chacun, instinctivement, que quelque chose n'allait pas. Un événement fâcheux, peut-être grave, plissait le front de Camille. Elle resta dehors quelques secondes avant de se décider à avancer. Le chien aboya en voyant Paul qui la rejoignait. Enfin, ils entrèrent. Camille demanda à Mona de s'asseoir et, le visage gris, elle s'assit à son tour. « J'ai eu ton grand-père au téléphone. Il faut que nous discutions, Mona. Qu'est-ce qui se passe ?»« Ah, si tu savais comme je suis désolée, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman ?»« Certaines personnes choisissent leur mort, » dit Camille d'une voix imperceptible. Cosmos jappa à nouveau. Mona s'étrangla presque. Elle entreaperçut, mal dissimulée dans le dos de Camille, un bout de cahier. Était-ce son journal intime? Était-ce le journal qu'elle s'était attelée à écrire pour se raconter à elle-même tout ce qui s'était passé depuis sa crise? Ce journal de long et lent apprentissage de l'art et de la vie auprès de son dadé? Ce journal dans lequel elle avait enquêté sans rien en dire sur sa grand-mère? Était-ce ce journal d'ombre et de liberté qu'avait dérobé sa mère ?« Maman !» balbutia Mona d'une voix affaiblie. « Oh, pardon, ma chérie !» supplia Camille tout en ramenant dans la lumière sa main et le cahier rouge qui s'y trouvait. « Je sais que je n'aurais pas dû que tes secrets t'appartiennent, mais j'ai trouvé cela dans ta chambre. Est-ce que tu l'as ouvert ?» Camille acquiesça. Mona hurla de rage. Cosmos s'écrasa sous un meuble. Camille se précipita vers sa fille pour essayer de la consoler. Elle refusa, la repoussa d'un geste violent qu'elle ne se connaissait pas. Elle hurlait et hurlait encore, trahie, dégoûtée, désespérée. « Tu es 0000 !» martelait-elle. « Mona !» tenta sa mère. « Écoute-moi !» Mais Mona n'écoutait rien. Elle s'élança vers la porte de la boutique. Elle aurait voulu se sauver au loin et à jamais, prise dans un mélange indéfinissable de rancœur, de honte, de chagrin et de regret. Finalement, les jambes coupées, elle s'écroula en larmes sur le trottoir. Sa mère avait donc tout compris. Elle savait que depuis des mois, Mona n'allait pas voir un pédopsychiatre, mais des œuvres dans les musées avec son grand-père. Et si Camille l'avait appelée, c'était sans doute pour en parler. Qu'avait-il bien pu se dire ? Mona, le front moulé dans les paumes, sentit ses parents s'asseoir de part et d'autre et lui attraper la taille. Ce fut Paul qui prit la parole. Elle accueillit ses mots en sanglotant. « Mona, tu sais bien que je ne suis pas le meilleur pour causer, mais voilà, sache que nous sommes fiers de toi. Moi, je trouve ça incroyable comme tu as été courageuse depuis presque un an. Tu as été malade. Et jamais tu ne t'es plainte. Tu as eu un secret avec ton grand-père, et jamais tu ne l'as trahi. Tu t'es posé des questions sur ta famille, et t'as eu raison de le faire. Et puis j'adorais Colette, tu sais, tout le monde l'adorait. C'était une femme extraordinaire, et elle t'aimait tellement, Mona. Elle aurait été très fière de toi. Je vais te dire mieux. Vous êtes les mêmes, toutes les deux. Exactement les mêmes. « Est-ce que tu veux qu'on en parle, ma chérie ?» demanda timidement Camille. Mona resta silencieuse. Elle avait pu tolérer les paroles de son père et les avait pleinement entendues. Mais elle en voulait infiniment à sa mère d'avoir lu ce cahier. Car rien n'est plus cruel que d'observer pour la première fois de son existence celle-là dont on croit qu'elle devrait toujours nous protéger, être l'agente d'une humiliation et d'une douleur. Ainsi, entre Mona et sa mère, rien ne serait plus jamais comme avant. Une petite mort venait de frapper la jeune fille. Un deuil commençait. Mais Et Mona le décréta au plus profond de son âme, un nouveau départ aussi. Il allait juste falloir un peu de temps. Les choses avaient donc été dites, de sorte que pour la toute première fois, Henri conduisait sa petite fille au musée, au vu et au su de ses parents. Qu'avait-il révélé? La stricte vérité. Depuis 48 semaines, Mona n'allait pas consulter un pédopsychiatre, mais voir des œuvres en sa compagnie, et c'était ses visites qui, le mercredi, faisaient office de soins de l'âme. Quand Camille et Paul eurent appris ce tour de passe-passe, ils en restèrent pantois. Davantage que le déshonneur du mensonge et de la parole trahie, c'était le sentiment d'être passé à côté d'une partie de l'enfance de Mona qui les bousculait, une distance immense les séparait d'elle. Pour Mona, le monde s'effondrait. Incapable d'exploser de colère, elle avait tout à coup la tentation du noir. Oui, du noir, parce qu'elle avait trouvé insupportable l'incursion dans son intimité, elle voulait se tapir dans les ténèbres. Et cette obscurité qu'elle avait tant haïe, tant redoutée, cette épreuve de la cécité où, ne percevant plus rien, on croit ne plus être perçu de personne, cette solitude de cendre, elle se surprenait à la souhaiter rageusement. Au moins, dans le noir, tout disparaîtrait, songeait-elle. À l'orée de Beaubourg, elle s'en ouvrit à Henri. « Dadé, parfois je suis si triste que j'ai envie de disparaître. » L'expression d'une telle pulsion de mort horrifia le vieil homme. Il fallait sortir Mona de la suie qui collait à son esprit. Il était temps de regarder un grand dessin de Jean-Michel Basquiat. Il s'agissait d'une grosse tête, ou plutôt de deux. Car la figure principale, complètement hallucinée, disproportionnée et de trois quarts, se superposait à une autre, de profil, obstruée et reléguée à l'arrière-plan. Cette double effigie venait trouer le grand badigeon noir, à peu près rectangulaire mais grossier, qui recouvrait l'ensemble du papier à l'exception des bords restés vierges. Elle surgissait au cœur de l'obscurité sans être complètement au milieu, mais plutôt légèrement décentrée sur la gauche et vers le bas. On aurait pu qualifier le dessin d'extraordinairement nerveux et enfantin à la fois. Les lignes étaient hachées, brisées et dépourvues de la moindre fioriture. La tête principale se caractérisait par son regard asymétrique, où la sclère flamboyait de jaune et les pupilles se dilataient. Elle avait des cheveux en brosse, noirs au centre, verts sur les côtés, surgissant d'un crénelage saignant le sommet du crâne. La figure se trouvait divisée en plusieurs parties, en particulier dans la région supérieure, où avaient été tracées des séparations nettes entre les deux hémisphères du front, d'une part, et d'autre part, entre ce front et la région orbitaire. Les zones colorées, le jaune des yeux cernés de rouge, du bleu pour l'essentiel du visage, du gris, du vert et du rouge pour le front et les joues, étaient un gribouillis dont on voyait la course du crayon. Il y avait aussi un grand nez pointu et un chaos à son aval, à savoir une grosse masse sombre et indistincte qui descendait jusqu'à la bouche, laquelle était ouverte, souriante, barrée de deux grands crocs. Quant à la tête de profil, elle était un peu plus à gauche de la composition et, élément perturbant, sa mâchoire et celle de la tête de trois quarts se trouvaient sur un même plan. Elle s'en mêlait presque. La cavité de la bouche était cette fois parcourue d'une dentition ajourée et surplombait un menton velu. Plus haut, on devinait de vagues narines suggérées par des petits trous au bout d'un fil tendu. Il n'y avait en revanche pas d'yeux visibles, pas de globe, rien qui fasse concurrence à la folle radiance des deux ovales jaunes qui fixaient le spectateur. Pendant les longues minutes qu'elle passa devant l'œuvre, Mona examina surtout les traces d'acrylique noir. Elle s'y perdait, et à leur contact songeait à toutes les fois où cette teinte avait pu la marquer au gré de ses visites au musée. Devant Rembrandt et son clair-obscur, devant le portrait de Madeleine, de Marie-Guillemine Benoît, devant Goya, devant Courbet, devant Malevitch, devant Hartung et devant Bergman. « Il était vraiment enragé, celui qui a fait ça !» lança Mona le visage tendu. Enragé et engagé, les deux. Et cela s'explique en partie par l'identité de l'artiste. Jean-Michel Basquiat vient de Brooklyn. Il était noir. Dans le contexte américain de l'époque, cela le condamnait à une certaine marginalité. Mais il a justement fait de cette marginalité une fierté, grâce à un talent artistique extraordinaire. Il a fini par devenir l'un des créateurs les plus connus de la planète. Bah oui, puisqu'il est présent ici. Oui, il est à Beaubourg et dans tous les plus grands musées du monde. Mais il a commencé par faire des œuvres dans la rue, figure-toi. Il est un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui le graffiti, ou l'art urbain. Moi, je dirais que c'est brutal, et que le dessin dégage de l'énergie. Basquiat dessinait tout le temps, mais il tenait, exprès bien sûr, très curieusement ses crayons gras un peu comme un paralytique, disait-on, car il les calait au niveau de l'annulaire. Alors ceux-ci glissaient, lui échappaient, et il les rattrapait. Avec Basquiat, le crayon prenait parfois l'initiative dans sa course folle, et il en accompagnait ou en corrigeait les trajets sur le support. C'est ce qui explique l'énergie de cette tête. Cette tête? Mais Dadé, il y en a bien deux pourtant. Oui, il y en a une principale et une auxiliaire. Le profil blanc est relégué à l'arrière-plan. La tête de trois quarts non seulement le couvre, mais l'efface. Et cette tête, la principale donc, a plusieurs caractéristiques. On dirait qu'elle est munie d'un masque fait de différentes plaques légèrement colorisées de rouge, de vert, de bleu et de gris. Cela peut faire penser à une moustache grossièrement esquissée, mais pourquoi pas aussi au noir de la peau. Ainsi, cette tête pourrait faire allusion tout à la fois à un homme dont l'identité est cachée, occultée par un casque, ou à un masque des civilisations extra-occidentales, comme on l'avait vu chez Anna Hush, ou encore à un homme noir. Quoi qu'il en soit, cette tête est d'une identité incertaine. Elle est aussi un peu inquiétante, non? Oui, parce que la bouche est vraiment bizarre. Il y a deux grandes dents qui font penser à un vampire ou à la gueule d'une bête, et dans le fond du palais, où commence la gorge, l'artiste a dessiné une petite grille rouge. Et puis surtout, il y a ses yeux jaunes. Je trouve qu'ils font vraiment peur, eux. Ils peuvent faire peur, Mona. Ils rappellent la grande vogue des drogues dont Basquiat lui-même fut un adepte malheureux. À New York, dans les années 1980, de nombreux jeunes gens absorbaient beaucoup de stupéfiants pour modifier leur conscience. Ainsi se sentaient-ils euphoriques ou très sereins ou formidablement forts. Mais alors, est-ce qu'en faisant ce dessin, Basquiat fait de la publicité pour la drogue? En un sens, peut-être, car il témoignait de son pouvoir. La drogue permet de dépasser les perceptions humaines et de rendre l'existence plus intense. Mais Basquiat a également souffert de ses addictions, et de manière générale, a payé très cher ses excès. Regarde à nouveau cette tête extravagante, et à l'arrière-plan le profil édenté auquel elle se superpose. Ces deux figures sont à la fois fascinantes et repoussantes. Oui, et d'ailleurs, le bout de visage qu'on aperçoit à gauche fait penser à une tête de mort. Exactement. Et figure-toi que Basquiat a souvent dessiné des crânes, de même que son grand ami Andy Warhol.
Ah oui, lui, ce nom me dit quelque chose.
Andy Warhol était la figure majeure du mouvement qu'on a appelé le pop art à partir des années 1960, et il a énormément soutenu Basquiat. C'est intéressant de savoir que ces deux-là affectionnaient beaucoup le motif du crâne. Jean-Michel Basquiat, comme Warhol avant lui, a connu une enfance pendant laquelle il a été malade et hospitalisé. Il a grandi dans un quartier modeste de New York et il s'est fait renverser par une voiture.
Ça me rappelle Frida Kahlo.
Très juste. Mais Basquiat était encore plus jeune que Frida Kahlo lors de son accident. C'était en mai 1968 et il n'avait que 7 ans. Il en est sorti sévèrement blessé et les médecins ont notamment dû lui enlever la rate. Pendant sa convalescence, il s'est plongé dans un ouvrage d'anatomie. À son contact, il a développé une passion pour les images du corps. Et il a énormément fréquenté les musées, notamment le Metropolitan de New York. Comme Warhol, il connaissait très bien l'histoire de la peinture. Et dans cette œuvre, On peut aussi reconnaître un genre traditionnel, celui de la vanité.
Mais oui, Dadé, ce Basquiat, il faudrait le mettre juste à côté de la nature morte de Goya, avec la tête d'agneau coupée au Louvre. Elle aussi, elle a son fond noir, et les deux reins y sont comme les deux yeux jaunes qu'on voit ici. Et puis il y a le 7 rouge aussi, complètement au centre.
Henri ne comprit pas tout de suite de quoi sa petite fille parlait. Mais Mona était en réalité focalisée sur une partie du tableau qui, en effet, semblait former le chiffre 7. C'était l'angle sur la droite du crâne qui encadrait l'œil gauche et qui s'apparentait à une plaque fixée par un rivet circulaire à l'encoignure. Or, à cet endroit, abondaient des traces de crayonnés sanguins et affluaient des petits ronds pareils à des cellules ou à des globules. Le 7 se découpa soudain nettement.
« Tu as raison, Mona. Continue. »«
Et regarde, Dadé. Basquiat a voulu montrer un endroit du cerveau qui chauffe très fort. Cela va très bien avec le regard jaune. Cette tête entre en ébullition. Elle est en feu. »
Henri était abasourdi par la pertinence de l'enfant. Cette tête mi-machine et mi-biologique, mi-humaine et mi-animale, mi-noire et mi-blanche, s'embrasait. En outre, l'hémisphère du cerveau ainsi valorisé par Basquiat était celui de gauche, c'est-à-dire le siège du langage et des mots, auquel l'artiste, graffeur à ses origines, accordait une immense importance. Le 7 résonnait aussi pour Henri, avec l'âge, mythique entre tous, de la mort de Basquiat, victime d'une overdose de médicaments à 27 ans. Avec son feu intérieur, reprit le vieil homme, cette œuvre montre des yeux qui portent en eux leur propre lumière et échappent aux ténèbres. Elle montre un visage qui sort de l'ombre. Tout l'art de Jean-Michel Basquiat est là. Il sort de l'ombre la culture urbaine de New York. Il sort de l'ombre le graffiti. Il sort de l'ombre la création des Noirs américains. Il sort de l'ombre leurs origines et leur histoire douloureuse, depuis l'esclavage jusqu'à la ségrégation. Il sort de l'ombre leurs plus illustres combattants, tels les boxeurs, les jazzmen, ou bien sûr, lui-même. Basquiat sort l'ombre de l'ombre.
Sort de l'ombre,
acquiesça solennellement Mona. En s'échappant de Beaubourg, Henri faillit confier à sa petite fille le mystère de son langage, mais il se retint. Ce n'était pas le bon contexte pour cela. Il fallait attendre un jour plus heureux. Mona, elle, examinait les graffitis qui partout envahissaient les murs de Paris. Elle se demandait si certains d'entre eux avaient été faits par des artistes qui, comme Basquiat, finiraient un jour dans un des plus grands musées du monde.